le thème de mon intervention aujourd'hui est la situation de décrire, pas de décrire, de trouver des solutions à la situation ou aux situations dans lesquelles nous nous trouvons bien souvent, où nous sommes entre le désespoir et l'espérance. Si vous me permettez d'être momentanément pessimiste, voilà que je cherchais le mot, si vous me permettez d'être momentanément pessimiste, je vais vous balancer, comme ça, d'un coup, un certain nombre de motifs de désespérance. Mais je vous dis tout de suite que ce n'est pas là notre idéal. Cependant, nous avons, les uns et les autres, nous sommes confrontés à toutes sortes de difficultés que je ne vais évidemment pas décrire. Chacun a les siennes, chacun a sa manière, et chacun les supporte comme il peut. Mais il nous faut, nous sommes entre chrétiens, nous croyons en Christ, nous croyons en l'action permanente de Dieu en nous et dans le monde. Nous croyons donc qu'il y a une issue. Et tout le problème, toute la question va être de voir où est cette issue. Mais dans un premier temps, je voudrais vous, je dis bien balancer, parce que vous allez recevoir paf, 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 de tous côtés, en espérant que je ne vais pas trop décrire vos questions à vous-même, mais pour prendre quelques exemples, pour montrer un large panel de difficultés devant lesquelles nous sommes confrontés, auxquelles nous sommes confrontés, et qui nous amènent quelquefois, sinon au désespoir, si c'était le désespoir, je pense que nous ne serions pas là, ni les uns ni les autres, mais au moins à la lassitude et qui nous amène à la question de savoir, mais alors, où est l'espérance? Parmi ces motifs, un des premiers éléments, une des premières choses est évidente, c'est, suivant notre analyse, l'évolution contemporaine du monde dans lequel nous sommes. Avouez que ce n'est pas encore trop le paradis, tel qu'on se l'imagine tout du moins. Avouez que si le Seigneur nous a promis la paix, on ne la voit pas partout et en permanence. Quand le Seigneur nous dit aussi que vous êtes des fils, que nous sommes appelés à connaître la liberté, pour beaucoup ce n'est pas le cas, et pour tous en tout cas, cette liberté-là est souvent, d'une manière ou d'une autre, contrainte. Je ne sais pas si je peux faire allusion à ce thème-là aussi. Nous sommes confrontés également, quelquefois, aux scandales qui peuvent exister non seulement dans le monde, mais même dans notre propre monde, je veux dire dans l'Église. Il y a quelquefois, et nous pouvons avoir à en souffrir, il y a quelquefois une forme d'autoritarisme ou de moralisation extrême des membres du clergé. Et je ne vise personne, ce n'est pas pour vous, Père Alexandre, que je parle. Mais il y a ces questions-là qui nouent notre estomac et qui, quelquefois, nouent notre âme elle-même, ce qui est encore beaucoup, beaucoup pire. Et cette attitude-là brime véritablement la liberté de conscience des uns ou des autres. Et c'est vraiment un drame. Et si les membres de l'Église elle-même nous acculent à ce drame, alors où allons-nous apprendre ce qu'est la liberté que Dieu nous donne et comment utiliser notre liberté pour accomplir, je mets des guillemets tout de suite au mot accomplir notre salut, parce que je vais revenir, j'espère, un peu plus loin sur ce que signifie accomplir son salut. Il y a un autre motif de désespérance, c'est face à notre néant personnel. Nous sommes confrontés à nos passions dont nous voudrions bien nous passer, contre lesquels nous nous opposons en fonction de nos forces, pour lesquels nous demandons à Dieu d'intervenir et de nous guérir, mais nous ne voyons pas toujours la guérison se pointer, parce que nous sommes atteints par une certaine forme d'asthénie, de faiblesse, d'impossibilité profonde de changer quelque chose dans notre vie. Nous sommes aussi tous, à peu près sans exception, à un moment ou à un autre de notre vie, ou quelquefois sur une longue période, une longue durée, nous sommes aussi confrontés à des difficultés de tous ordres ou à des échecs personnels. Nos maladies, nos handicaps, je ne parle pas pour nous, les moines, mais le chômage auquel nous sommes quelquefois confrontés, nous c'est le contraire. Les échecs familiaux ou les échecs scolaires et bien d'autres choses encore que je ne peux pas étendre la liste indéfiniment. Il y a aussi notre incapacité ressentie douloureusement de faire quelque chose ou d'atteindre un but que nous nous sommes fixés, soit par notre volonté, soit parce que nous pensons, peut-être d'ailleurs à juste titre, que ce puisse être la volonté de Dieu ou la volonté des autres. En tant que chrétien, et notamment en tant qu'orthodoxe, nous sommes aussi très souvent, on se sent très souvent presque seul ou isolé pour croire en ce que nous croyons. Je vous dis ça tout de suite alors que nous sommes 80 réunis. Mais nous ne sommes pas, hélas, toujours physiquement réunis en un même lieu. Et cette impression, cette expérience, cette difficulté de se sentir seul se manifeste tout particulièrement pour les plus jeunes, quand ils sont dans leurs études, soit les études secondaires, même en primaire maintenant, mais soit les études dans le primaire, leurs humanités, s'il y en a encore, soit dans les cantines auxquelles ils se retrouvent, soit après à l'université, puis finalement dans les activités professionnelles. Combien peuvent se réjouir de pouvoir partager leur foi avec d'autres dans les milieux dans lesquels ils sont placés. Et c'est plutôt l'inverse. Et il faut reconnaître qu'il faut beaucoup de courage, qu'il vous faut beaucoup de courage aux uns et aux autres pour conserver votre foi et votre pratique, alors que tout dans le monde essaie de vous en écarter, de vous décourager et même de vous prouver, à tort bien sûr, mais tentez quand même de vous prouver que vous êtes dans une mauvaise voie. Il y a encore, il me semble que je reviendrai un peu plus loin là, sur ce thème, il y a aussi quelque chose que nous ressentons dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. C'est une sorte de silence de Dieu. Nous ressentons comme si, malgré toutes les promesses que Jésus nous a faites, comme si nous étions oubliés de Dieu. Et non seulement on peut se sentir, ou il arrive que l'on s'en sente, isolé par rapport au monde qui nous entoure, par rapport aux personnes qui nous entourent, mais on ressent aussi la même chose avec Dieu lui-même, ce qui est un comble. Il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, et nous, pour une raison ou pour une autre, nous avons parfois l'impression qu'il ne répond pas à nos prières et qu'il nous laisse seuls, Seuls, nous sommes donc seuls face au monde et seuls face à Dieu. Avouez que c'est un drame. Ceci nous peut nous amener aussi à un péché, à une passion qui s'appelle l'acédie. L'acédie, mon but n'est pas de vous décrire l'acédie aujourd'hui, mais l'acédie est cette espèce de lassitude en toute chose qui se manifeste dans la vie spirituelle, où on se dit, à quoi bon ? J'y arriverai jamais, je ne peux rien. C'est une expérience réelle, une expérience de notre incapacité fondamentale à changer quelque chose à notre vie, mais c'est justement à ceci dans ceci qu'il ne faut pas sombrer, excusez-moi de bafouiller, et parce que c'est une manière aussi, quand nous sommes confrontés à ce genre d'épreuves, d'apprendre que ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons changer quelque chose à notre vie, mais que c'est Dieu seul qui peut changer en intervenant dans notre vie. Mais, comme je vous ai dit précédemment, on ne le sent pas toujours intervenir au moment où nous le voudrions. Même sans parler d'acédie, qui ne ressent pas de difficultés, entre guillemets, décourageantes, quand on veut chercher à prier? Cherchant à prier, tout de suite, on a un tas d'idées qui arrivent, un tas de nécessités, des choses à accomplir impérativement. Et on fait passer, on a la tendance, la tentation tout du moins, de faire passer ces obligations humaines avant cette obligation que nous avons et que nous nous donnons de prier. Mais je parle pour la prière, mais je peux vous en dire autant certainement pour la lecture. J'entends évidemment la lecture spirituelle, je ne parlais pas des lectures de bande dessinée, et aussi pour notre propre conversion. Quelle est difficile notre conversion. Depuis des années, des années et des années, on voudrait changer un peu quelque chose et rien ne change. Nous retombons, hélas, nous retombons toujours dans les mêmes fautes. On n'arrive même pas à les varier d'ailleurs, tellement celles qui nous assaillent sont prégnantes. Il y a la tendance du découragement aussi à ceux qui croient, pour une raison ou pour une autre, qu'ils ne peuvent même plus être sauvés à cause de ce qu'ils ont l'impression ou conscience d'avoir fait en mal, évidemment, et qui croient qu'il n'y a plus de salut pour eux, alors que pourtant, il y a un salut, et c'est là où devrait être leur espérance, à défaut que ce soit leur espoir. Pour les pasteurs, pour les éducateurs, donc pour les parents, je crois que je vous ai tous écrit en quelque sorte, une question se pose, devant laquelle nous nous trouvons aussi isolés et sans réponse. Notre monde, le monde contemporain, au moins localement, au moins là où nous sommes, semble ne même plus avoir soif des choses de Dieu. Je ne sens même plus avoir soif de Dieu et de conversion et de prière et de vie éternelle. Tout ce qui fait la raison d'être de notre présence ici. Le monde semble blasé, semble comblé et cherche à dépasser, à combler le vide dans lequel il s'engouffre par une boulimie de rationalité, par une boulimie de biens matériels, de loisirs, etc., qui nous font au contraire échapper à la confrontation avec notre salut et le chemin pour y conduire. Le monde contemporain semble ne plus avoir soif de vie éternelle, se contente des quelques années qu'il a à vivre sur terre. Certes, c'est ainsi que souvent c'est ressenti, mais en fait, ce monde-là est déshydraté. Et la question qui se pose à nous, c'est comment, de quelle manière lui redonner soif? Comment redonner au monde l'envie et la possibilité de retrouver cette relation avec la vie éternelle et comment retrouver cette intimité avec Dieu, comment retrouver cette communion les uns avec les autres. Et quand on le demande à Dieu, dans un premier temps, il ne semble pas toujours que Dieu nous réponde. Vous voulez d'autres exemples ? Je peux y durer pendant 2 heures. Mais je pense que ça suffit pour montrer que chacun d'entre nous, on a une attitude, on ressent ceci chacun à notre manière, chacun personnellement et individuellement. Pour ceux qui ont lu des romans qui pour certains paraîtront évidemment vieux, puisque je parle des années 65-75, pour ceux qui ont lu les livres de Virgile Georgiou, ils se rappelleront peut-être de ce beau et énorme pavé qu'il avait titré de la 25e heure. La 25e heure décrivait en quelque sorte l'impasse politico-économique, l'impasse du capitalisme comme du communisme à l'époque pour amener le salut de l'homme et ces deux modes de vie, ces deux politiques, si je puis dire, n'amenaient l'un et l'autre qu'à la domination de l'homme par l'homme, qu'à l'esclavage et non pas à la liberté auquel on s'attend. Il avait écrit juste après un autre livre qui était en fait la suite de cette 25e heure qui s'appelait de la 25e heure à l'heure éternelle. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille, ce n'est pas un livre de théologie à proprement parler, mais je vous conseille de vous y référer. C'est des livres qui se lisent très, très facilement, qui sont très agréables à lire, qui n'ont pas vieilli, et qui nous montrent que face à cette double impasse du monde dans lequel nous sommes, il y a une solution, c'est au-delà de la 25e heure. La 25e heure, c'était déjà l'au-delà des 24 heures, c'est-à-dire l'au-delà du monde tel qu'il nous est présenté, tel qu'il nous est offert. Et au-delà de tout ça, au-delà de cette désespérance à laquelle nous sommes acculés en ne voyant qu'il n'y a aucune solution, aucun espoir possible sur la terre, selon ce monde, il y a une autre solution, c'est d'en sortir par le haut, par de la 25e heure à l'heure éternelle, par l'heure éternelle, c'est-à-dire l'entrée dans le royaume des cieux, l'entrée dans la vie éternelle. Et sortir par le haut, c'est précisément cela qui s'appelle l'espérance. Je ne vous ai pas dit l'espoir, mais je vous ai dit l'espérance. Et nous allons voir tout à l'heure comment espoir et espérance ne coïncident pas, ne sont pas la même expérience. L'espoir est un sentiment humain, un sentiment qui consiste à dire que vraisemblablement, si nous voulons garder un esprit optimiste, que nous sommes au creux de la vague et qu'un jour, certainement, quelque chose va faire que ou les hommes seront plus sages, ou nous-mêmes pourrons changer quelque chose, ou des événements vont intervenir et que tout va changer pour redevenir bien ou mieux. Ça, c'est de l'espoir. Mais l'espoir, c'est un pari, si je puis dire, vraisemblable, mais qui n'a aucune garantie. Et c'est une notion qui est tout à fait horizontale, qui n'est que un phénomène humain, un sentiment humain. L'espérance, c'est autre chose. L'espérance, c'est une vertu. C'est un don que Dieu nous donne, mais que nous pouvons accueillir et que nous pouvons développer. L'espérance, c'est un acte de foi, donc un acte volontaire qui consiste en quelque sorte à forcer Dieu, à dire à Dieu, tu te tais, tu nous laisses. Nous pourrions être découragés, mais non. Je sais que tu ne nous trompes pas. Je sais que ce que tu nous as promis, et ce que tu nous as promis, tu nous le donneras, parce que nous sommes, puisque tu nous l'as promis, nous sommes en droit de le réclamer. Je l'exprime mal, évidemment, je l'exprime d'une manière un peu vulgaire, mais je le fais intentionnellement pour vous essayer de vous montrer la force avec laquelle nous pouvons, non pas faire pression sur Dieu, mais avec laquelle nous pouvons lui demander d'accomplir précisément sa volonté qui est notre salut. Et si vous vous souvenez des passages de l'Ancien Testament, vous rappellerez sans doute le combat de Jacob avec l'ange. Un ange lui apparaît, et qui est l'ange du Seigneur, donc qui est vraisemblablement qui est le Christ lui-même, mais avant son incarnation. Et tous les deux entrent en lutte. Jacob le force à se révéler, le force à dire son nom. Et finalement, l'ange, si je puis dire, capitule. Je ne peux évidemment pas dire que Dieu capitule devant la volonté de l'homme. Mais c'est-à-dire que l'homme, on a la même expérience chez Job, l'homme peut, par son ancrage dans la foi, parce que Dieu lui a promis quelque chose, il peut passer au-delà de toutes les difficultés et insister auprès de Dieu de manière à ce que Dieu lui donne véritablement ce qu'il lui a promis. Vous pouvez constater que c'est la même attitude qu'a eu même le Christ juste avant sa crucifixion quand il était dans le jardin de Gethsémani, qu'il demandait que si c'était possible le calice qui lui était promis s'écarte de lui. Sur la croix, il a même dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'est senti comme abandonné, mais malgré tout, devant cet apparent abandon de son Père, il lui a remis son esprit « que ta volonté soit faite et non la, même, et non la mienne », disait-il. Et il a forcé en quelque sorte, il a été au-delà du désespoir, il a été au-delà de l'impression d'être seul, il s'en est remis complètement au Père, et c'est cela qui a permis qu'il soit fait Seigneur, qu'il retrouve la gloire qui est la sienne en tant que Dieu, et qui a permis sa résurrection, son ascension, et son, dans l'attente de son second retour sur terre. Ceci dit, je voudrais aussi vous faire une petite, pas une parenthèse, mais évoquer un point sur lequel nous nous trompons souvent. Vivre avec Dieu, avoir la foi, n'a pas pour but de nous rendre la vie plus facile ou plus agréable. Et ça, on croit souvent que en étant chrétien, en suivant Dieu, ce sera plus facile de vivre, plus facile de supporter nos difficultés, ou en tout cas qu'on va pouvoir avoir un certain nombre bénéficier de certains nombres d'avantages que le Seigneur veut nous donner. Ça, c'est une erreur. C'est faire c'est un peu de la superstition en prenant Dieu comme un Père Noël dont la haute. Dans la haute serait pleine de cadeaux, et on lui demande ceci, cela, une poupée pour Noël ou un petit vélo pour mon anniversaire, et le Seigneur va nous laisser. Ça, c'est une blague, parce qu'il peut y avoir des choses aussi plus intéressantes et plus utiles que la poupée et le vélo, surtout la poupée pour moi, évidemment. Mais mis à part ces exemples un peu so-so, la pratique chrétienne, la vie chrétienne, la relation avec Dieu n'a pas pour but de nous amener à une vie plus facile, mais le Seigneur nous a promis, est venu nous promettre de nous donner l'accès à un autre, précisément à un autre royaume et pas à celui-là. Et tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce auquel nous sommes confrontés, que nous le ressentions en bien ou douloureusement, tout cela concourt justement à la réponse que Dieu fait pour nous purifier, pour nous amener petit à petit à nous détacher de toute chose terrestre, pour nous faire adhérer, nous faire connaître et expérimenter les choses du royaume de Dieu. Donc face à toutes ces difficultés, faut-il se décourager? Faut-il perdre espoir et perdre espérance? Eh bien, devant ça, il ne faut surtout pas jeter le manche avant avec la cognée. Il y a un salut pour tous ceux qui restent fidèles. Comment se manifeste ce salut? Parce qu'il y a des moyens pour y arriver. Des moyens humbles, encore que appelés des moyens humbles, des moyens que Dieu donne de lui-même et met à notre disposition. Avouez que cette humilité est peut-être la nôtre pour la recevoir, mais pas de la part de celui qui donne. Et les solutions, ou la solution, c'est en étant proche de l'Église. Je ne veux pas dire simplement en pratiquant une vie chrétienne ou une vie liturgique, mais essentiellement en s'attachant à travers la vie liturgique et la vie de l'Église, pardon, je veux dire la vie de l'Église, en s'attachant à la vie de l'Église, à la personne même du Christ. Le but est de nous attacher au Christ, lequel est le seul qui soit homme et qui soit Dieu, qui soit Dieu et qui soit devenu homme. C'est donc en adhérant à lui, pas simplement par la croyance, mais par une vie commune, par une vie de communion, que l'on peut accéder à ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire la vie divine. La solution pour cela, c'est, malgré la tentation de l'ascédie que j'évoquais tout à l'heure, malgré la lourdeur des difficultés ou de l'aveuglement dans l'espérance que nous pourrions avoir, c'est d'avoir la volonté de nous arrêter devant Dieu quand même, malgré tout. Je n'ai pas envie, je ne ressens rien. J'ai au contraire d'autres activités plus accaparantes. Je ne sais quoi encore, je ne vais pas tout vous décrire, je ne sais pas où. Mais malgré tout ça, même si je suis vide, je me tiens devant Dieu parce qu'il est, je sais qu'il est vivant et qu'un jour ou l'autre, il me répondra. Ce n'est pas autre chose que ce que faisait dans l'Ancien Testament Job, tel que l'histoire nous est racontée, quand il attendait sur son fumier, alors que tout le monde le tentait en lui disant « Mais tu perds ton temps, ton Dieu, il vient, mais tu vois bien qu'il ne vient même pas à ton secours, etc. etc. » Et Job restait là et attendait, contre toutes les apparences, attendait que le Seigneur lui réponde, et effectivement, au moment où il n'y avait plus d'espoir, le Seigneur lui a répondu. Quelqu'un disait qu'il faut s'arrêter devant Dieu quand même, malgré toute notre sécheresse intérieure. Et la phrase, vous la retiendrez, je suis sûr, la phrase de cette personne-là a été, même sans parole, mais être là devant Dieu avec la candeur d'un jeune veau devant sa mère. Vous connaissez le monde rural, vous avez vu ces scènes-là, donc vous pouvez voir avec quelle candeur le veau regarde sa mère. Eh bien, nous, intérieurement, n'avons pas d'autre attitude à avoir que la même candeur, je ne dis pas la même naïveté, mais la même attente devant le Seigneur, parce qu'on le sait qu'il accomplit tout ce qu'il nous a promis. Mais simplement, il faut encore que nous apprenions à le chercher et à le reconnaître. La foi est la pratique de l'Église, en tant que pratique de l'Église, je ne parle pas des croyances, de la croyance, mais la foi permet quand même de tenir, même dans ce monde, même dans les difficultés de ce monde, dans toutes les difficultés que nous rencontrons, la foi n'est pas un supplément d'être, n'est pas un cadeau ou des cadeaux supplémentaires que nous fait Dieu pour alléger notre vie, mais elle nous permet tout de même d'avoir nos racines dans le royaume des cieux, d'avoir nos racines en Dieu, et de rayonner, de fleurir, si vous voulez, de fleurir dans ce monde et de pouvoir rayonner de la foi de Dieu et manifester que Dieu malgré son silence, est agissant dans l'Église et nous apporte notre salut. Ceci, c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. C'est la seule solution pour gagner, si je puis dire comme ça, pour gagner la vie éternelle. Mais pas seulement gagner la vie éternelle, c'est-à-dire dans l'au-delà, ce qui voudrait dire au-delà de notre mort, mais de gagner la vie éternelle aujourd'hui même. Car la vie éternelle, elle est expérimentable, elle est palpable, elle est accessible, en partie certes, mais déjà aujourd'hui. Et je ne connais pas vos vies à tous, mais je pourrais presque affirmer que tous, même souvent inconsciemment, et c'est certainement mieux comme ça, vous avez certainement aussi l'expérience de quelque chose de cette vie éternelle qu'il faut simplement apprendre encore à développer. Ne vous laissez surtout pas convaincre par ceux qui veulent vous détourner de tout ce qui fait la foi et de la pratique de la vie avec Dieu. Parfois, nous ressentons cette tentation même dans nos propres familles, à plus forte raison dans les milieux éducateurs ou professionnels que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des personnes qui nous tentent comme ça, qui sont opposées parce qu'eux-mêmes ont été trompés à leur insu sur la bonté de Dieu. Ils attendaient autre chose de la bonté de Dieu. Ils attendaient les cadeaux dont je vous parlais tout à l'heure. Alors que Dieu ne veut pas nous laisser nous attacher à cette terre qui ne peut rien nous apporter de définitif, mais il veut nous apporter justement le détachement de ces choses de manière à ce que notre cœur s'ouvre, s'arrache, se déchire pour que entre en lui une autre dimension, la dimension de la vie éternelle qui, elle, par définition, le mot comme le mot l'indique, n'a pas de fin. Ceux-là qui ont été trompés quelquefois à leur insu parce que les études les ont éloignés de Dieu, parce qu'ils ont été influencés par les médias de toutes sortes, parce qu'ils ont goûté aux drogues, à la magie, je ne vous parle pas du métal ou du gothique, qui ne sont pas des activités ou des modes d'expression qui peuvent nous conduire vers Dieu, en quelque sorte. Tout cet enfermement sur soi-même de ceux qui ont été trompés se tiennent à leur compte à soi et n'ont pas, hélas encore, tout du moins, l'humilité de se repentir, de se retourner vers Dieu. Rappelez-vous que Saint Jean Climac, par exemple, disait que c'est par l'orgueil, c'est-à-dire l'enfermement sur lui-même, que l'homme est tombé, a été déchu. Mais c'est au contraire par l'humilité que l'on est sauvé. Donc dans ce retournement sur soi-même pour nous mettre à la disposition de Dieu et pas nous enfermer dans notre carapace et égoïste. Comment se fait-il que nous, les chrétiens, nous ayons l'impression de n'arriver à rien? Comment se fait-il que, à titre personnel ou à titre individuel, nous avons l'impression de ne pas arriver à nous convertir? Comment se fait-il que nous ressentions, en tout cas, cet isolement dans les milieux dans lesquels nous vivons? Comment se fait-il qu'il semble que l'Église, numériquement parlant, au moins s'amenuise, au moins dans nos pays, et nous avons des crises dans le clergé, nous avons des crises dans la vie monastique, nous avons des crises dans le nombre d'églises ouvertes et dans la manière, le nombre de personnes qui remplissent ces églises. Comment se fait-il que nous soyons confrontés à cette forme d'échec ? Alors qu'autour de nous, ou dans notre monde, ou ailleurs sur Terre, nous voyons des mouvements, j'évoquerai simplement les mouvements charismatiques, les sectes protestantes, les musulmans aujourd'hui, qui semblent au contraire avoir le vent en poupe et qui, eux, se multiplient, font des adeptes à tour de bras, tout du moins autant qu'on nous le présente, parce que c'est peut-être pas si rose qu'on le présente, mais ça fait partie de la propagande, si vous voulez. N'empêche que nous avons bien cette impression-là. Et certainement qu'il y a là une attitude qui est opposée à la nôtre, et heureusement que nous ne rentrons pas là-dedans. C'est-à-dire que ces mouvements-là, et bien d'autres que je n'évoque pas, propose un espoir. Il propose pas une espérance, mais il propose un espoir. Il propose quelque chose. Il propose des guérisons. Il propose la domination. Il propose un paradis hédoniste. Par des prophéties, par des signes, il dupe volontairement ou involontairement. Ils dupent les personnes. Ils font croire que la vie sur Terre va s'améliorer. Et ils ne prêchent pas un autre royaume. Ils ne prêchent pas le royaume des cieux. En entendant le royaume des cieux, non pas le paradis comme les musulmans le présentent, mais vraiment le paradis comme communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le partage... par la grâce de Dieu, de la gloire qui lui revient en tant que Dieu. Et nous alors, notre espérance, comme je suis en train de vous le dire, est dans le monde à venir, pas dans ce monde-là. Dans ce monde, il nous revient, pour la raison pour laquelle je l'ai dit, c'est-à-dire de nous détacher de lui, il nous revient d'accepter la faiblesse, comme le Christ a accepté d'être condamné par les Juifs et les Romains jusqu'à la mort sur la croix, d'accepter l'humiliation, l'opposition, les persécutions, tout en sachant qu'il n'y a pas que cela aussi. Je ne voudrais pas vous donner une impression que le christianisme est forcément une religion d'échec, si vous voulez. Cependant, nous ressentons souvent cela. Dans la permanence de notre présence à l'Église, dans l'Église, et quand je dis dans l'Église, une fois de plus, je ne dis pas dans le bâtiment de l'Église, mais dans le mode de vie que présente l'Église, c'est une invitation à découvrir, à expérimenter déjà, aujourd'hui, ici et maintenant, l'existence et le mode de vie qui sera celui du paradis dans l'au-delà, que l'on connaît simplement aujourd'hui en prémisse, mais que l'on connaîtra en plénitude dans le royaume des cieux, c'est-à-dire après notre mort et notre résurrection. Et ceci, par la liturgie, par la communion, les uns avec les autres, avec Dieu d'une part, et les uns avec les autres, au-delà du temps et de l'espace, ça vous savez bien, on en parle souvent. Cette communion qui s'intériorise pour chacun d'entre nous par la prière personnelle. La prière communautaire, nous avons vécu il y a quelques jours, et Père Emilianos, ici présent, pourrait nous parler beaucoup mieux que moi je ne peux le faire, sauf que moi j'ai l'avantage de parler en français. Et il pourrait nous montrer ce qu'est l'expérience des magnifiques panégyries ou des magnifiques agrypnies qui sont vécues au Mont Athos et qui donnent à ceux qui assistent et qui les vivent une véritable expérience authentique, pas par l'imagination, de l'introduction déjà dans le royaume des cieux qui regonfle l'âme et qui vous permettent comme ça de supporter aussi les épreuves. Mais ça, c'est le propre de la vie monastique dans le meilleur des cas. Mais de toute manière, pour les uns ou pour les autres, même par le témoignage de ceux qui le vivent, il y a pour nous la possibilité d'une expérience sentie, vécue du paradis. Et est-ce que c'est simplement... J'arrive pas à éclaircir ma pensée. pour vous la présenter. Mais cette expérience sur terre du royaume des cieux est expérimentable non seulement pour l'avenir, mais véritablement pour aujourd'hui. Lorsque vous êtes à la liturgie, la plus simplement vécue, célébrée, lorsque vous chantez « Déposons tous issus du monde, nous qui mystiquement sur terre représentons les chérubins, etc. etc. » Dès lors que vous dites la bénédiction, que le prêtre dit la bénédiction, « Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, béni soit la royauté du Père, du Fils et du Saint-Esprit », immédiatement, que nous le sentions ou que nous ne le sentions pas, il y a quelque chose de nous-mêmes, pas notre corps, mais il y a quelque chose de nous-mêmes qui est immédiatement élevé vers un autre mode de vie qui est le royaume, qui s'appelle le royaume des cieux. Il y a cette expérience, parce que je ne fais que vous parler d'expérience, il y a immédiatement cette expérience de ce qu'est la vie divine et du rejaillissement de la gloire divine sur notre propre être, ce qui rejaillit même sur nos corps. Et alors que vous avez mal au dos, vous avez mal aux jambes parce que vous êtes debout, vous en avez assez de chanter, vous avez l'encens qui vous pique les yeux et vous avez quelqu'un qui ronfle à côté de vous, ou derrière l'iconostase, et bien malgré tout ça, vous sentez véritablement comme les caresses du Seigneur. Vous sentez comment vous êtes unis avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment la Mère de Dieu est auprès de vous et parmi vous. Tout cela, vous le sentez. C'est vraiment déjà en prémisse l'expérience du royaume des cieux. Par cette communion qu'il y a entre nous, pas simplement les 10, 15 ou 20 qui sont réunis dans l'Église pendant la liturgie, mais tous ceux qui sont dans le monde entier et qui ont été ou qui seront encore dans ce monde à communier à la même expérience. C'est une expérience que, j'aime pas le terme, mais je l'utilise intentionnellement parce qu'il est un peu violent, c'est une expérience qui est authentiquement mystique. Mystique, je veux dire par là que elle dépasse, elle est l'expérimentation du mystère de la relation entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que cette expérience-là nous montre, nous fait palper, nous fait sentir, je n'ai pas d'autre mot que de vous dire, nous faire expérimenter que nous sommes configurés, nous sommes incorporés au Christ. Le Christ qui est le seul qui soit Dieu et homme, nous prenant en lui, fait de nous des hommes qui sommes unis à la vie, donc des hommes divinisés. Il y a un Dieu humanisé et pour de manière à ce que les hommes soient divinisés. Et c'est cela qui forme l'Église et c'est cela que nous pouvons sentir, pas simplement dans notre réflexion intellectuelle ou théologique, mais véritablement par toutes les fibres de notre être, et c'est cela l'expérience mystique. Car de salut, il n'y en a qu'un, c'est la 25e, à l'heure éternelle. L'heure éternelle, il n'y en a qu'une. C'est en Christ par définition, parce que lui est Dieu. Le salut, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie divine. Or, un seul parmi les hommes est Dieu, c'est Jésus qui est Dieu-homme. En lui, c'est-à-dire en le laissant devenir ce que nous sommes, nous pourrons devenir ce qu'il est. Avouez que si je vous parlais tout à l'heure de vivre tout cela en toute humilité, l'humilité ne vient pas du don qui nous est fait. Il y a certes des charismes divers selon les époques et selon les lieux. Et je veux dire par là que les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons dans notre monde contemporain et ce monde-là et pas ailleurs, sur notre planète, n'est pas un motif de désespérance. Nous ne sommes pas pénalisés du fait de vivre ici et maintenant. Si le Seigneur nous a fait naître dans ce monde à cette époque, c'est parce que il a besoin, si je puis dire, il a besoin, il nous prend, c'est pas un besoin, mais il nous prend comme collaborateurs pour amener dans ce désert, parce qu'on ressent toujours, quelle que soit la situation, que nous sommes dans un désert, il se sert de nous pour le rendre présent dans ce, dans ce désert que nous ressentons. C'est ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas, en nous quittant le jour de l'ascension, allez baptiser toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Face à ces difficultés, à ces mystères, à cette heure éternelle qui nous est promise et auquel on a, je ne peux pas ne pas faire allusion aussi à la phrase de Saint-Silouane que vous connaissez par cœur, la phrase que vous connaissez par cœur de Saint-Silouane, qui dit « Tiens ton âme en enfer et ne désespère pas ». Certes, nous sommes confrontés à des difficultés. Certes, nous sommes quelquefois confrontés au désespoir. Mais justement, ne désespérons pas et dépassons simplement le pari que certainement les choses s'amélioreront pour nous accrocher comme une ancre dans le fond de la mer. De nous accrocher à cette réalité en étant sûr que le Seigneur nous répondra, mais quand il le voudra et comme il le voudra. Nous sommes faibles. Et je voudrais donner deux exemples. Déjà, du temps des pères du désert, déjà du temps 4e ou 5e siècle, un disciple est allé trouver son père spirituel en disant « Père, comment se fait-il que nous soyons si faibles maintenant ? Saint Antoine, il faisait des choses extraordinaires et nous n'arrivons à rien. » Il disait ça à cette époque, ça fait 1500 ans ça, hein, à peu près, hein, un petit peu moins, mais enfin... qu'est-ce que nous devrions dire maintenant ? Et le père spirituel lui a répondu que les hommes petit à petit deviendront si faibles que le peu que les uns et les autres pourront faire aura peut-être beaucoup plus de valeur que l'ensemble, que tout ce que pouvait faire Saint Antoine. Ne nous consolons pas en disant ça me suffit de faire peu, parce qu'à ce moment-là c'est grand, ça voudrait qu'on ne fait rien. Mais ça nous suffit de savoir que ce que nous pouvons faire, ce que nous essayons de faire, cela est ce que Dieu attend de nous comme collaboration à son œuvre. Et je voudrais prendre un autre exemple que vous pourrez lire dans le Synaxaire au 20 janvier, celui de Saint-Pierre, le percepteur d'impôts, lequel était dur, était très prêcheur, il était violent avec tous et injuste. Et un jour, un mendiant lui a demandé de l'aide. Il lui a jeté, pas par charité, mais il lui a jeté avec colère, il lui a jeté un morceau de pain, comme ça, pour avoir la paix. Et ce don presque involontaire d'un morceau de pain a fait que Dieu a pris cela comme un acte de charité, le peu qu'il pouvait faire. Et petit à petit, ça lui a valu un retournement complet, un salut complet, et c'est devenu un saint de l'Église. Autrement dit, ne jetons pas, comme je vous disais tout à l'heure, le manche avec la cognée, mais faisons au moins ce que nous pouvons, mais acquérons, accaparons la certitude, l'espérance de la vie éternelle qui se manifeste notamment, je vais y revenir tout à l'heure, je crois, dans peu de temps, qui se manifeste à travers notre joie. Pas la joie des rigolards, mais une joie profonde qui fait que l'on accueille l'épreuve comme on accueille la grâce, qui fait qu'on est stable dans notre bonheur, parce que notre bonheur ne dépend pas de ce que des choses humaines, mais notre bonheur, nous le tirons directement de celui sur lequel nous sommes branchés, ou plus exactement sur lequel nous sommes greffés, c'est-à-dire le Christ qui lui-même nous envoie l'Esprit Saint pour nous donner la force de réaliser ça, pour nous attacher au Père. Je vous avais dit que je vous donnais deux exemples, je vais vous en donner un troisième. que l'on trouve dans le livre du père Éloi Leclerc, qui est un petit livre aussi très facile à lire, qui est plein de fraîcheur et qui est de la spiritualité franciscaine, mais en cela c'est tout à fait conforme à la doctrine et à l'expérience orthodoxe. À un moment donné, François d'Assise est auprès d'un ruisseau, il voit un de ses frères qui est là, qui a l'air tout pensif. Il lui dit, mais frère, qu'est-ce qui te rend pensif comme ça ? Ah, quand je vois la pureté de l'eau et sa légèreté, quand elle saute de rocher en rocher, je me dis qu'elle a bien de la chance d'être pure comme ça. Et François d'Assise lui demande, ah bon, parce que d'après toi, c'est quoi la pureté ? Ben, la pureté du cœur, c'est de ne rien avoir à se reprocher. Ah, si c'est ça, je comprends alors que tu sois malheureux. Parce que tous, on a quelque chose à se reprocher. Et là, tu seras jamais, si c'est ça, tu ne seras jamais heureux. La pureté du cœur ne consiste pas en cela. La pureté du cœur, continue François d'Assise, la pureté du cœur, c'est de te mettre derrière soi tout ce qu'on a à se reprocher, de manière à ce que ce ne soit pas un obstacle entre Dieu et toi. Et toi, tu te trouves face à Dieu, tu sais que tu as fait le mal, le mal est derrière toi, et malgré tout, tu fais comme s'il n'existait pas, bien qu'il ait existé, tu fais comme s'il n'existait pas, et tu te présentes devant Dieu, et tu laisses à Dieu le soin de juger, le soin de te sauver, le soin de te donner ce qui t'est nécessaire à toi et aux autres. Car tout ce que l'on fait, sans aucune exception, la preuve avec cette colère de Saint-Pierre, le percepteur, qui a jeté cette bouchée de pain au mendiant. Tout ce que l'on fait, finalement, peut être bon, c'est-à-dire peut être, je vais dire guillemets encore, rattrapé par Dieu, si vous voulez. Et ça peut être la cause de notre conversion et de notre humilité. Combien de grands pécheurs ont utilisé leur péché dont ils n'ont pas pu... qu'ils n'ont pas pu vaincre, et combien ont utilisé leur passion pour qu'elle devienne le moyen d'un amour plus grand pour Dieu, d'une confiance plus grande pour Dieu, et finalement pour une conversion, même si la conversion ne s'est pas manifestée par un abandon total de leur passion. Je conclus qu'il n'est pas toujours possible d'avoir de l'espoir, comme je vous le définissais tout à l'heure. L'espoir, c'est un sentiment humain. La foi en une probabilité d'une solution à nos problèmes, fussent-ils des problèmes spirituels. Mais plus profondément que l'espoir, il y a l'espérance, qui est l'abandon de soi en faveur de l'attachement au plan de Dieu. Or, nous savons, nous croyons, que devant l'anéantissement de l'homme que constitue le péché, Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité, deuxième personne divine, est devenu homme comme nous et a assumé en tant que Dieu les conséquences du péché auquel il n'a aucunement participé. Mais il a souffert, il a été tenté, il a pleuré, il a eu faim ou il a eu soif, il a été fatigué, il a marché. Tout ce que nous connaissons, il l'a connu. Et que Dieu connaissent et expérimentent, vivent ce que nous-mêmes nous vivons, déjà, rien que cela, ça transfigure déjà notre propre expérience. C'est parce que Dieu lui-même a marché sur terre, c'est parce que Dieu lui-même a eu faim et a eu soif, c'est parce que Dieu lui-même a souffert et a été tenté qu'il nous communique. Il nous redonne un dynamisme, une force qui nous permet à notre tour non seulement de supporter la faim, la souffrance, la maladie et finalement la mort et la tentation, mais qui nous permet aussi non seulement de le supporter, mais de le dépasser et d'en faire un moyen d'offrir à Dieu quelque chose de notre vie, de manière à ce que l'échange dont je vous parlais des natures s'accomplisse, et que lui offrant cela, Dieu puisse nous donner en échange notre ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire la vie éternelle. Par ceci que je viens de vous dire, il a communiqué, et aujourd'hui il communique encore, même si nous ne le sentons pas, une force, un dynamisme qui transfigure et divinise notre nature, de nous recevons les germes au baptême, qui se développent par la communion sacramentelle, qui se retrouvent lorsqu'on est séparé par nos péchés individuels par la confession, que l'on assimile, que l'on adopte, que l'on personnalise, que l'on en fait entrer en soi par le silence de la prière, et dont les fruits visibles sont la vertu, et par-dessus toute la charité, qui n'est pas simplement un acte philanthropique, mais qui est un dépouillement de soi et un don de sa personne à Dieu et à nos frères, et qui se manifeste à travers le temps que l'on consacre aux autres et à travers la joie qui doit émaner de notre, qui vient de notre âme, de notre expérience, et qui ne peut que rejaillir à travers nos visages et à travers notre attitude, bien sûr. Pour tout cela, les épreuves de cette vie, notamment l'apparent silence de Dieu dont je vous parle depuis le début, qui ne semble pas répondre à notre prière, qui ne semble pas toujours ne faire que des miracles que l'on attendrait, et dont on nous parle souvent, le Seigneur qui nous laisse errer dans nos passions alors que nous le prions pourtant de nous en délivrer, qui semble laisser s'effondrer son Église au profit des sans-dieu ou des opposants à la foi, à la divino-humanité de Jésus. Nous ressentons tout cela, et bien des choses encore, comme un abandon de Dieu, disons le mot, une déréliction, comme celle qu'a connue Jésus, comme la tentation suprême, culminant dans la phrase que j'évoquais déjà tout à l'heure, par le « Mon Dieu, ô mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dans laquelle nous voyons la tentation de l'ascédie que j'ai essayé de vous définir tout à l'heure, qui nous guette tous, et plus particulièrement les moines, et dont nous demandons à Dieu de nous protéger dans le Notre Père en disant « Ne nous laisse pas succomber à l'épreuve. » L'épreuve par essence, l'épreuve finale, qui est cette tentation du découragement, de l'abandon devant la déréliction à laquelle nous sommes confrontés. Face à cela, l'espoir en lui-même ne nous sert à rien. Seule l'espérance nous greffe sur le salut divin et l'acquisition de la vie éternelle. L'espérance, c'est comme une protestation de tout notre être devant ce Dieu qui semble silencieux, qui ne semble pas tenir ses promesses, et notamment celle-ci, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je vous l'accorderai ou je le ferai. » C'est comme si l'on criait à Dieu au plus fort de notre misère, « Seigneur, tu te tais, tu te caches, mais je sais que tu es là, et par la patience que toi tu me donnes, tu me montreras ce que tu m'as promis. Tu ne veux pas te montrer, mais je crois quand même que tu es là en moi et en nous, et tu te montreras. » Maranathan, c'est-à-dire Amin, viens Seigneur Jésus. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'expérience de Job. Relisez le livre de Job dans cet esprit-là, vous verrez. Ne voyez pas ne croyez pas que c'est simplement un signe de confiance, que tout va aller mieux, que tout s'arrange. Certes, il y a la résurrection et nous y croyons, mais la résurrection n'arrive qu'après la mort et qu'après la croix. C'est pour cela que nous proclamons dans l'Église, je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et tout ce que vous savez et confessez dans le je crois en Dieu.